soucoupe est partie à la verticale, peut-être 40 mètres.
Et tout de suite, comme ça?
Alors c'est là qu'elle a pris son aspect comme une boule de feu. Vous savez, je l'ai vu partir dans la direction de l'Est.
Comprenez qu'au milieu des années 50, passer à la télévision ou à la radio, avoir son nom dans le journal national, ce n'est pas rien. Alors en plus, quand ce que vous racontez est aussi fascinant, eh bien, vous devenez le sujet de conversation au comptoir des bistrots.
Marius de Ville devient du jour au lendemain une vedette. Si au début, il profite un peu de cette soudaine notoriété, cela ne va pas durer, hein, car on le prend vite pour un affabulateur. Après avoir tendu l'oreille à son histoire, on commence à le ridiculiser.
Ah, c'est terrible, mais c'est la descente aux enfers même. Il va perdre successivement son emploi, sa maison. Bref, il regrette d'avoir parlé et son sort va marquer les esprits.
D'un coup, l'hypothèse de l'existence des extraterrestres est massivement rejetée. Ce qu'on appelle alors le soucoupisme fait finalement plutôt sourire.
Oui, pour les médias, le sujet devient trop douteux. Pour les experts scientifiques et militaires, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Mais c'est ça qui est génial avec les ovnis. On nous dit que cela n'existe pas, mais pourtant on dépense de grandes sommes d'argent pour vérifier qu'il n'y a rien à voir.
Alors je vous propose pour cela qu'on retourne un instant aux États-Unis, parce que s'il y a bien un pays qui a investi massivement pour explorer l'hypothèse extraterrestre tout en affirmant publiquement que c'était une perte de temps et d'argent, c'est bien les États-Unis.
Alors prenons une respiration et retournons chez l'oncle Sam.
Une question sur les conspirations ?
Les autorités ont mis en place des commissions. Les plus célèbres sont américaines, mais le scepticisme règne.
À partir de 1952, un nouveau projet voit le jour. Blue Book, toujours piloté par l'US Air Force, est officiellement destiné à enquêter sur le phénomène OVNI qui prend de l'ampleur depuis la fin de la guerre.
Et dans cette aventure, un homme va jouer un rôle clé, un scientifique. Un sceptique au départ, qui va devenir une figure incontournable du dossier OVNI. Il s'appelle Joseph Allen Hynek. C'est sans doute l'homme le plus influent du XXe siècle sur ce sujet. On peut même dire qu'il est le père fondateur de l'ufologie moderne. Alors, allons à sa rencontre.
Allen Hynek est né en 1910 à Chicago. C'est un astrophysicien qui, durant la Seconde Guerre mondiale, travaille sur les radars. La paix est revenue, il devient professeur à l'université et il est ensuite recruté pour construire les premiers satellites américains.
Dès la mise en place de la première commission sur les ovnis, qui s'appelait le projet SIGN, Hynek devient consultant scientifique de l'US Air Force. Il est chargé d'identifier les cas où les ovnis ont pu être confondus avec des objets astronomiques connus, comme des météorites par exemple.
Hynek est d'ailleurs, à ce moment-là, plutôt du genre à douter quant à l'existence réelle de ces ovnis.
En 1948, il estime même le sujet totalement ridicule. Il considère qu'il s'agit d'un phénomène de mode qui ne durera pas, mais il va réviser son jugement.
L'examen de centaines de témoignages qu'il reçoit et qui, pour beaucoup, émanent de témoins que l'on peut estimer crédibles, des astronomes, des pilotes de chasse, des policiers ou encore des officiers militaires, va bouleverser ses certitudes.
Hynek, c'est un homme solide, hein, les pieds sur terre, la tête bien faite. S'il a été choisi pour participer aux différents projets d'études sur les ovnis, puis reconduit dans ce projet Blue Book et prendre sa tête, c'est précisément parce qu'il était sceptique vis-à-vis des ovnis. Mais à force de lire les rapports, d'écouter les témoins, quelque chose change. Hynek ne se met pas à y croire totalement, non, mais il commence à sentir que les autorités, elles, ne jouent pas franc jeu, qu'il y a au minimum une malhonnêteté intellectuelle.
Il remarque que de nombreux témoignages, pourtant détaillés et crédibles, sont écartés d'un simple revers de main. Seuls les cas facilement explicables sont retenus, les autres sont ignorés ou oubliés.
Il confie, je le cite, « La qualité des témoins a commencé à me troubler. Quelques cas ont par exemple été rapportés par des pilotes militaires, et c'est donc là que pour la première fois, j'ai pensé que peut-être il y avait quelque chose derrière tout cela. »
Alors il prend une décision très importante. En parallèle de son travail au sein du projet Blue Book, dans le plus grand secret, il va participer au Collège Invisible. Il s'agit d'une association de scientifiques intrigués et convaincus de la réalité des ovnis qui décident de s'échanger des informations et de partager leurs réflexions. réflexion.
Ce collège invisible est un aréopage de scientifiques, d'anciens militaires, comme le projet Blue Book. Sauf qu'ici, la grande différence, c'est qu'il s'agit d'un réseau international et surtout sans pression hiérarchique. C'est probablement ce qui séduit Hynek, d'ailleurs. Pouvoir creuser le sujet, enfin, sans avoir à rendre de compte à l'armée.
Et puis, va s'en suivre la scission avec l'US Air Force. Et cela, suite à une apparition d'OVNI, pour le moins mystérieuse.
C'est en mars 1966 que ça se passe. 40 personnes, dont 12 policiers, déclarent avoir vu un groupe d'OVNI se poser dans des marécages, près d'Ann Arbor, dans le Michigan. Hynek mène son enquête, mais il ne trouve aucune explication scientifique.
Et évidemment, ça ne plaît pas du tout à la hiérarchie. On ordonne donc à Hynek de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire calmer le jeu dans la presse et dire qu'il n'y a évidemment pas eu d'OVNI, qu'il s'agit d'une illusion, d'un phénomène banal. Sa consigne, expliquer que les témoins n'ont vu qu'une simple émission de gaz démarrer, à l'origine donc des fameuses lumières. En clair, on lui demande de falsifier son rapport.
On l'aura compris, Hynek aime l'honnêteté intellectuelle, et le voilà confronté à un choix. Mentir et sauver Blue Book, ou dire la vérité et en assumer les conséquences, c'est-à-dire la fin de carrière et de sa réputation.
Et son choix est fait. Bien évidemment, il est aussitôt remercié.
Mais son départ ne passe pas inaperçu. Il l'émeut, il secoue, car il n'est plus seul. D'autres scientifiques civils, liés au projet Blue Book, prennent la parole à leur tour. Eux aussi estiment que le phénomène OVNI est réel, qu'il mérite une enquête sérieuse, et surtout, qu'on arrête de le balayer d'un revers de main.
C'est un séisme, ces prises de parole publiques vont faire vaciller le projet Blue Book, qui sera finalement abandonné 3 ans plus tard, en 1969. Avec, sans surprise, la conclusion attendue des autorités, les OVNI n'existent pas. Mais Hynek, lui, ne tourne pas la page, et il va consacrer toute sa vie à ces fameux objets volants non identifiés.
Mais maintenant, dans le civil. Et si le nom de Hynek ne vous dit rien, vous connaissez sûrement la classification qu'il a inventée. Celle-ci permet d'évaluer le degré d'importance des récits concernant les ovnis et les extraterrestres. Observation, contact visuel ou physique, Hynek appelle cela une rencontre.
Et voici donc sa classification. Rencontre du premier type, le témoin voit un ovni, quel qu'il soit, à moins de 150 mètres. Rencontre du deuxième type, l'ovni laisse des preuves matérielles comme des traces au sol. Rencontre du troisième type, le témoin voit un ovni et ses occupants, ou seulement ses occupants.
Il y a donc 3 types de rencontres, selon Hynek, mais des spécialistes en ont plus tard ajouté d'autres.
Oui, on parle d'un quatrième type quand il y a enlèvement, d'un cinquième type en cas de tentative de communication. Le sixième type, lui, désigne les cas mortels lorsqu'une personne aurait été tuée par un extraterrestre. Et il existe même une rencontre du septième type, ça c'est lorsque cette rencontre prend une tournure sexuelle.
Waouh ! Eh ben, ils pensent vraiment à tous, ces spécialistes des ovnis.
La rencontre du troisième type, elle a bien sûr été rendue célèbre par l'un des plus fameux believers, c'est-à-dire quelqu'un qui croit que les extraterrestres existent vraiment, Steven Spielberg, bien sûr.
Vous connaissez bien sûr ce dialogue musical du film. D'ailleurs, Spielberg a même demandé à Allen Hynek d'être consultant technique pour Rencontre du troisième type, sorti en 77. Et plus que ça, Hynek y fait même une apparition de quelques secondes sous les traits d'un scientifique parmi d'autres.
Mais les ovnis, ce n'est pas qu'un délire hollywoodien réservé aux États-Unis. Le phénomène intrigue partout, au point que de nombreux pays mettent en place leur propre commission d'enquête. Et la Belgique, bien sûr, n'y a pas échappé.
C'est vrai, elle s'appelle la Société Belge d'études des phénomènes spatiaux, connue sous son acronyme SOBEPS. Cette association privée, est née en 71, va avoir des missions de service public. On y trouve des physiciens, des biologistes ou des botanistes. Toutes les sciences s'y croisent, en fait.
La démarche de la SOBEPS est scientifique et basée sur la collecte et l'analyse des données les plus fiables possibles, ainsi que sur la remise en cause perpétuelle des résultats acquis. Pour ce faire, elle collecte des informations auprès de témoins, constitue des dossiers d'enquête sur le terrain.
La SOBEPS a été dissoute en 2007, mais vite remplacée par le COBEPS, le Comité Belge d'Études des Phénomènes Spatiaux. Et donc, depuis sa création dans les années 70, la SOBEPS a eu l'occasion de collaborer avec la gendarmerie belge et même les forces aériennes. C'est assez étonnant pour un organisme de passionnés d'OVNI, d'ailleurs.
Et bien sûr, en presque 40 ans, on imagine bien qu'ils ont vu et entendu des choses à la SOBEPS.
Surtout que la Belgique a été le centre du monde de l'ufologie en son temps. Vous connaissez l'affaire.
Bien sûr, cette fameuse série d'observations qui a eu lieu chez nous entre 1989 et 1991, c'est d'ailleurs lors de cette fameuse vague que la SOBEPS a collaboré avec des gendarmes et des militaires, bref, des organisations officielles.
Jacobs, vous souvenez-vous de la nuit du 29 novembre 1989 ?
Bien sûr, c'était un mercredi.
Hein ? Eh ben, quelle mémoire, et quoi d'autre ?
Eh bien voyons, je me souviens que je jouais avec le chien dans le jardin de mes parents. Je venais de me faire gronder parce que j'avais sali les chaussures de mon père en tapant dans un ballon.
Ah ben, merci pour ces détails émouvants, Jacobs. Mais je parlais d'un souvenir en lien avec notre sujet du jour, les ovnis.
Ah, bien sûr. Le 29 novembre 89, donc, c'est le début de ce que les amateurs d'ovnis appellent la vague belge. Cette nuit-là, on estime que plus de 140 témoignages ont été enregistrés et plusieurs patrouilles de gendarmerie ont observé des objets volants non identifiés.
Exactement, des engins de forme triangulaire avec trois lumières blanches et une rouge au centre qui planaient presque silencieusement au-dessus du pays.
Des gendarmes à Eupen ont suivi un de ces engins pendant plusieurs kilomètres. L'objet se déplaçait à basse altitude, sans bruit de moteur, et changeait de direction de façon inexplicable.
Et ce n'était que le début, hein. Pendant plusieurs mois, des centaines de Belges rapportent des observations similaires. Bien sûr, le phénomène est sans doute amplifié par une couverture médiatique massive, mais suffisamment marquant pour que l'armée de l'air belge finisse par s'en mêler.
Vous faites référence à l'incident, cette fois-ci, du 30 au 31 mars 1990.
Exactement. Cette nuit-là, la force aérienne belge a envoyé deux F-16 pour intercepter un de ces ovnis. Les radars au sol avaient détecté un écho anormal et les pilotes ont confirmé que leur propre radar de bord captait un objet. Mais visuellement, ils ne voyaient rien.
C'est là que ça devient troublant. L'objet détecté effectuait des manœuvres impossibles. Il passait de 240 km/h à plus de 1800 km/h en quelques secondes sans produire de bang supersonique.
Sans oublier les changements brutaux d'altitude, parfois plus de 1000 mètres en une seconde. Aucun avion connu, évidemment, n'est capable de faire ça.
Et pourtant, après plusieurs minutes, plus rien. L'OVNI a disparu des radars sans laisser de traces.
Ce qui est fascinant, c'est que cette vague a duré plus d'un an. D'ordinaire, les apparitions d'ovnis, c'est l'affaire de quelques jours, quelques semaines au plus. Mais là, entre novembre 1989 et avril 1991, on a recensé des centaines de témoignages, des photos et même une vidéo du jamais vu à cette échelle.
Justement, parlons d'une photo en particulier. Vous savez, la fameuse photo de Petit Rochin. Pour certains, c'était carrément la photo du siècle. L'image censée prouver enfin quelque chose.
Ah, elle a été diffusée partout dans le monde. Elle montrait un engin triangulaire avec trois lumières au coin et une quatrième plus petite au centre. Pendant plus de 10 ans, elle a été considérée comme l'une des meilleures preuves de l'existence des ovnis.
Jusqu'à ce que son auteur avoue en 2011 que c'était un faux. Un canular habile, il s'est amusé avec un ami à fabriquer une maquette d'un triangle en polystyrène sur lequel a été accroché 4 ampoules. En bougeant un peu lors de la prise de vue, un léger flou a donné encore plus de réalisme au cliché. Un joli coup.
Certes, mais ça ne signifie pas que toute la vague d'observation était une illusion. Les témoignages sont nombreux et crédibles, et l'armée belge elle-même a reconnu qu'il se passait quelque chose d'inexpliqué.
Le colonel Wilfried De Brouwer, qui était responsable de la communication pour l'armée de l'air à l'époque, a affirmé que les phénomènes observés ne correspondaient à aucune technologie connue.
Écoutons-le, il était l'invité de l'émission Contrepoint sur la RTBF en plein cœur de la vague en mars 90. Le colonel Wilfried De Brouwer, à l'époque, est responsable de la détection et de l'appréhension de tout objet volant dans l'espace aérien belge. Voici ce qu'il déclarait.
Il est évident qu'il y a quelque chose qui se passe, puisqu'il y a quand même des témoins. De notre côté, on a essayé d'éliminer quelques hypothèses, du style avion stealth, donc des avions qui ne sont pas détectés par radar, qui se promènent ici. La description ne correspond pas du tout avec un engin pareil. Donc pour nous, il est exclu que ce soit des avions conventionnels, je dirais. et nous n'avons pas connaissance d'un autre type d'avion qui pourrait avoir des performances pareilles.
Quand c'est la voix d'un colonel de l'armée qui parle, le mystère prend une toute autre dimension. Même s'il faut le dire, hein, sur les centaines d'observations recensées, la plupart ont trouvé une explication rationnelle. Mais pas toutes. Le doute, l'absence de réponse claire, voilà qui crée un vide que remplissent tout de suite les esprits les plus imaginatifs, voire paranoïaques, c'est selon.
Le bureau des complots.
Tenant dire un petit mot à Sophie, hein, qui nous a laissé un message sur le répondeur, et qui se demandait s'il fallait croire aux ovnis. La réponse, c'est oui, bien sûr, hein. Des témoignages, comme on vient de le voir, il y en a plein. Maintenant, parler d'extraterrestres, c'est autre chose. En tout cas, pour les complotistes, hein, c'est sûr que les autorités gardent le silence volontairement sur le sujet.
De théorie, si les autorités nient le sujet, c'est qu'elles veulent garder ces découvertes pour leur compte et profiter des avancées technologiques qu'elles pourraient apporter.
Et deuxième théorie, plus effrayante, pourrais-je dire, les autorités sont déjà à la merci des envahisseurs.
Oula, voilà qui me mêle.
Et je pense qu'il n'est pas le seul dans ce cas. L'apparition de ce document vidéo a été un sacré événement, rappelez-vous.
Ah oui, ça c'est sûr, c'est plus efficace que n'importe quelle production hollywoodienne. Mais pour lui répondre, je pense qu'il nous faut retracer toute la chronologie de cette affaire, tant elle a eu de nombreux rebondissements.
Le bureau des complots.
Souvenez-vous, au commencement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Roswell. En 1947, un fermier découvre dans son champ à Roswell, donc au Nouveau-Mexique, les débris d'un étrange objet écrasé. L'armée intervient et dans un premier temps reconnaît publiquement qu'il s'agit des restes d'un disque volant. Mais dès le lendemain, changement de version. Dans un nouveau communiqué, elle nie tout en bloc, expliquant qu'il ne s'agit en réalité que d'un banal ballon-sonde.
L'affaire semble classée, enterrée même. Pendant des années, plus personne n'en parle. Elle rejoint la longue liste des milliers de récits d'OVNI signalés un peu partout sur la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. Intriguant, oui, mais vite oublié. Mais en 1980, coup de théâtre. La revue américaine National Enquirer ressort l'affaire du placard après plus de 30 ans. L'article, qui rappelle ce revirement soudain de l'armée, sème le doute.
Et puis, ce qui fait sensation, c'est surtout l'interview du major Jesse Marcel, le militaire qui a été le premier arrivé sur le site à l'appel du fermier. Car lui, qui est désormais à la retraite, est désormais libre de parler. Et il revient sur ses déclarations de l'époque. Puisque vous avez, Peters, l'article entre les mains, faites-nous-en donc un peu la lecture.
Avec plaisir. Alors, 40 ans après les faits, donc, l'ex-major Marcel confie ceci aux journalistes. Je vous cite. « Les débris ne ressemblaient à rien de fabriqué sur cette terre, et ceux que nous avons récupérés ont été remplacés par les débris d'un ballon météo pour donner corps à la dissimulation. »
Le mot est lâché, dissimulation. Voilà de quoi faire trembler toutes les certitudes. Mais ce n'est pas fini. Il me semble que ce Jesse Marcel parle aussi de l'aspect mystérieux de ce qu'il a trouvé dans le champ du fermier, non ?
Exact, c'est un peu plus loin. Écoutez, nous avons trouvé des petits morceaux de métal, mais surtout nous avons trouvé quelques matériaux difficiles à décrire. Je n'avais jamais vu quoi que ce soit de pareil, et je ne sais toujours pas ce que c'était. Il y avait dessus des inscriptions, quelque chose d'indéchiffrable, ça ressemblait à des hiéroglyphes. J'ignore d'ailleurs s'ils ont été déchiffrés ou pas.
Et là, tout change. Avec cette interview explosive, publiée dans le National Enquirer, ce qui n'était jusque-là qu'une obscure anecdote d'OVNI devient officiellement l'affaire Roswell. Et le timing n'est pas anodin. Dans la foulée, un livre sort, coécrit par deux enquêteurs ufologues indépendants, qui affirment avoir recueilli les témoignages de plus de 90 personnes présentes à Roswell en 1947.
Et ils racontent tous que la version officielle a été un mensonge.
Et dans cet ouvrage, Jesse Marcel ajoute encore une couche de mystère. Selon son témoignage, il aurait à l'époque discrètement rapporté plusieurs morceaux des débris chez lui, juste pour les montrer à son fils.
Ah là, mon cher, on bascule carrément dans la science-fiction. Selon ce récit, le jeune Jesse Marcel Jr., curieux, aurait manipulé l'un des débris rapportés par son père. Et c'est là qu'il aurait vu une chose étrange. Une lumière brillante, presque irréelle, avec des reflets violets à l'intérieur même du fragment. Et surtout, détail devenu mythique, d'étranges symboles gravés sur la surface, comme des écritures venues d'ailleurs.
Et l'affaire est lancée. Un cocktail explosif à la croisée des mensonges d'État, des révélations de militaires et de la naïveté sincère d'un enfant. Et ça ne s'arrête pas là. En 1992, deux journalistes poursuivent l'enquête et enfoncent le clou. Ils se nomment Stanton Friedman et Don Berliner. Et leur travail relance l'affaire Roswell sur le devant de la scène en alimentant encore un peu plus la légende.
Ces deux journalistes estiment que c'est bien un ovni qui s'est crashé. Mais surtout, ils affirment que quatre corps d'extraterrestres ont été recueillis avec l'appareil. Il y en aurait même un qui aurait été capturé vivant.
Pour Friedman et Berliner, plus de doute. L'affaire Roswell, c'est du sérieux. Selon eux, une agence gouvernementale aurait été spécialement chargée d'enquêter sur les extraterrestres retrouvés donc sur les lieux du crash. Et surtout, elle avait pour mission de garder ces informations à l'abri du grand public. Une opération classée top secret, protégée par des décennies de silence et de désinformation.
Mais le plus spectaculaire arrive. Une vidéo qui va faire sensation et donner corps à toute cette mystérieuse histoire. Imaginez donc que les scientifiques de l'armée aient tout filmé.
La vidéo de la créature de Roswell, nous y voilà.
Certaines des images que vous allez découvrir sont des images impressionnantes, sont parfois difficiles donc à regarder. Mais je voudrais aussi ajouter tout de suite qu'il n'y aura pas d'images gratuites et que nous ne diffuserons ce soir que les moments qui serviront aux experts, aux spécialistes que nous avons réunis sur ce plateau à exprimer leur opinion, à nous éclairer pour nous permettre de nous forger notre opinion.
Vous l'avez sûrement reconnu si vous n'êtes pas né au XXIe siècle. Il s'agit de l'animateur Jacques Pradel, qui en 1995, sur la chaîne française TF1, et qui plus est à une heure de grande écoute, présente la vidéo de l'autopsie de cet extraterrestre qui aurait été retrouvé lors du crash de Roswell en 1947.
Près de 20 minutes de vidéo filmée au caméscope, une scène incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on est dans une sorte de laboratoire, il y a au centre un extraterrestre inanimé gisant sur un brancard, et il est en train d'être examiné et disséqué par des scientifiques en combinaison blanche portant des masques.
Les images, en noir et blanc, assez granuleuses et mal exposées, sont d'un réalisme saisissant. L'extraterrestre est l'archétype